Bonjour Emmanuel et bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Je me fiche d'où vient une idée du moment qu'elle paraît cohérente et qu'elle peut emmerder quelqu'un.
Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous tentons de réconcilier philosophie et actualité sous toutes ses formes. Actualité éditoriale bien sûr, mais aussi séminaire et festival, autant de façons de tendre le micro à la philosophie en train de se faire. Et aujourd'hui, comme tous les jours, l'équipe des Nouveaux Chemins se joint à moi pour vous saluer. Marianne Chassor, Antoine Ravon, Coloba Grossi et Lucie Tardy, avec Nicolas Berger cette semaine à la réalisation, Jean-Louis Deloncle à la prise de son aujourd'hui. Et bien sûr, celle que vous retrouvez tous les jours à 10h51 pour ces 2 minutes papillon, c'est Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, les œuvres romanesques de Georges Bernanos qui sont rééditées dans la collection La Pléiade chez Gallimard, avec en plus ces dialogues des Carmélites.
Rendez-vous à 10h51. Et avec nous en studio cette semaine pour nous parler de son dernier livre publié aux éditions PUF, j'ai le grand plaisir d'accueillir Pierre Guénantia, professeur d'histoire de la philosophie moderne à l'Université de Bourgogne, spécialiste de Descartes, et qui vient de faire paraître un livre lumineux, personnel et instruit sur l'entrée de la philosophie dans la modernité, avec pour guide son fondateur, René Descartes, et pour chemin, celui de la voie des idées. Bonjour à vous Pierre Guénantia.
Bonjour. La philosophie moderne commence indiscutablement avec Descartes qui en est le père fondateur. Et ce qui la caractérise par rapport à la philosophie antérieure, par exemple la philosophie scolastique, c'est ce que l'on pourrait appeler le choix d'une voie qui est celle des idées. Dès son premier travail, Les règles pour la direction de l'esprit, dont le titre est significatif et qui date de à peu près de 1628, Descartes assigne à la philosophie une tâche dont on peut dire qu'elle est nouvelle. La connaissance de l'esprit humain, de son étendue et de ses limites, c'est-à-dire de son pouvoir de connaissance. On peut avancer sans risque que ce programme cartésien sera celui de toute la philosophie moderne, au moins jusqu'à Kant, qui lui donnera une forme différente et sans doute définitive, car Kant récapitule cette philosophie nouvelle. Ce que l'on appelle la révolution copernicienne a consisté à montrer que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse. En matière de connaissance, Kant a rendu cette expression célèbre puisque, selon lui, l'objet de la philosophie était également de faire tourner l'objet de la connaissance autour du sujet et pas l'inverse. Cela revenait à considérer que l'objet est presque une fonction du sujet et que le sujet n'est donc pas un objet comme un autre.
Vous venez de lire le début de votre livre, Pierre Guénantia, l'introduction générale, Descartes pour entrer dans la modernité. Alors je signale que le titre de la collection dans laquelle vous publiez est « Une histoire personnelle de la philosophie ». Ce qui veut donc dire que lorsqu'on vous demande de faire une histoire personnelle de la philosophie, c'est de Descartes que vous parlez.
Ah ben bien sûr, c'est de Descartes que je parle, parce qu'avec Descartes j'ai une relation personnelle quasi depuis toujours. Mais personnelle, ça veut dire d'une certaine manière affective, c'est-à-dire que j'aime les auteurs dont je parle, et c'est pour ça que j'en parle avec une certaine ferveur, un certain enthousiasme, mais je les connais évidemment aussi pour les enseigner, pour écrire dessus, et ça n'est pas simplement Descartes, mais Descartes et tout ce qu'on a appelé les cartésiens, qui pour moi font partie, si je puis dire, de mon musée personnel, peut-être imaginaire d'ailleurs, c'est-à-dire où les philosophes, avec leur doctrine, leur thèse, bien sûr, on peut les exposer d'une façon objective et d'une façon analytique, mais je crois que, et notamment quand on enseigne la façon de les exposer, car ce sont des philosophes, ce sont pas des savants qui construisent des théories ou des objets anonymes, ils parlent de nous d'une certaine manière, donc je crois que le ton de la conviction n'est pas extrinsèque à l'objet. Je crois que tous les philosophes parlent en étant convaincus de ce qu'ils font. Et donc, je crois que quand on enseigne l'histoire de la philosophie comme moi, l'enseigner avec la conviction que ce qui est dit par ces philosophes est important et toujours important, n'est pas quelque chose qui me paraît extrinsèque ou qui me paraît inopportun dans une étude de la philosophie.
En revanche, vous avez beaucoup écrit sur Descartes, beaucoup travaillé sur ses textes, hein, et vous étiez déjà venu en parler à ce même micro d'ailleurs. Des ouvrages d'ailleurs parfois très originaux, Descartes et la politique notamment, qui est un des seuls ouvrages à ma connaissance qui porte sur la pensée politique de Descartes. On avait eu l'occasion d'en discuter. Comment trouver aujourd'hui, disons, une nouvelle manière de parler de Descartes, puisque j'imagine, même si la lassitude n'est pas là, il vous faut, en tant qu'enseignant et en tant que chercheur, trouver un intérêt suffisant pour produire un nouvel ouvrage sur une pensée que vous connaissez bien.
Bien sûr. Alors, c'est un nouvel ouvrage au sens matériel du terme. Il succède à d'autres, mais c'est pas un nouvel ouvrage au sens où j'aurais exposé une thèse que je n'aurais pas exposée auparavant. En ce sens, c'est une histoire personnelle, mais ça n'est pas une histoire thématique. C'est-à-dire, je ne défends pas une thèse, je présente un philosophe avec l'intérêt qu'il présente pour moi. C'est en ce sens que c'est personnel. Donc, je ne peux pas dire que j'ai trouvé quelque chose de nouveau que je me suis efforcé d'exposer. Ce qui est nouveau, s'il y a quelque chose de nouveau, et je vous remercie de la très gentille exposition que vous avez faite de ce livre, ce qu'il y a de nouveau, c'est la mise en perspective de ces philosophes. Ça, je ne l'avais pas fait, ou pas fait en tout cas comme ça, c'est la mise en perspective. C'est-à-dire, c'est montrer qu'au fond, l'histoire de la philosophie est une histoire cohérente. C'est pas une succession de tableaux, c'est pas une succession de doctrines qui sont comme ça, le produit du génie personnel de... Mais ce sont des gens qui, contrairement à ce qu'on croit, qui s'écoutent, qui se lisent, qui se discutent, et du coup, voilà, il y a une unité qui court, il y a un fil conducteur qui court à travers ces philosophes, et il m'a semblé que ce fil conducteur pouvait être, comme je le rappelais dans l'introduction, pouvait être celui de la nature de l'idée, l'importance de l'idée et sa signification. Donc c'est pour ça que, au fond, s'il y a quelque chose de nouveau dans ce livre, c'est le fait d'aligner, si je puis dire, tous les philosophes, tous les grands philosophes, les grands calibres de la philosophie moderne, dans la perspective de la notion d'idée.
Quelque chose de nouveau, en tout cas, ça effectivement, ce n'est pas forcément la raison pour laquelle vous l'avez écrite, mais je tiens à le redire, ce livre, bien loin de proposer un catalogue d'auteurs très connus, d'auteurs classiques, hein, puisqu'on y trouve Descartes, Spinoza, Leibniz, Pascal, Hobbes, Locke, Hume, vous proposez une réflexion qui est tout à fait cohérente, extrêmement claire et très pédagogique. Ça, je tiens à le dire parce qu'il y a beaucoup de textes qui paraissent sur ces auteurs-là. Celui-ci se lit vraiment du début à la fin de manière extrêmement limpide et s'adresse, je pense, à des jeunes étudiants aussi en philosophie, aussi bien qu'à des gens qui connaissent très bien ces auteurs. Alors, commençons la lecture de l'ouvrage, si j'ose dire. Vous dites, le point de départ, c'est celui de l'idée. Comment Descartes définit-il l'idée et en quoi sa définition et l'usage qu'il fait, l'utilisation qu'il fait des idées va influencer toute une génération de philosophes après lui?
Alors, ça c'est une question, enfin c'est la question de départ, hein, c'est la question initiale, d'autant que cette question elle est présente dès le premier ouvrage de Descartes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire Les règles pour la direction de l'esprit. Je pense que Descartes a hésité un peu sur cette question, c'est-à-dire que dans ce texte justement de 1628, ou qu'on date de 1628, qui est un livre déjà avancé mais qui n'est pas achevé, on le voit hésiter entre une conception de l'idée comme chose de l'esprit et une conception de l'idée comme image, voire comme image matériel, c'est-à-dire dans le cerveau, un peu comme Spinoza parlera justement des idées dépeintes dans le cerveau.
Voilà. Et progressivement, même assez rapidement, Descartes arrivera à séparer radicalement, et c'est sans doute l'effet de son dualisme ontologique, l'idée en tant qu'elle est inhérente à l'esprit, en tant qu'elle est le mode de fonctionnement de l'esprit, et l'image en tant qu'elle est le résultat de rencontre entre les corps extérieurs et mon corps, et qui fait que, par exemple, je vois un micro, je vois une bouteille d'eau, tout ça sont des images qui se forment dans mon cerveau, mais ça n'est pas mon cerveau qui fait les idées. C'est mon esprit pour Descartes, hein. C'est la différence entre l'esprit et le cerveau, entre l'esprit et le corps, c'est mon esprit. C'est-à-dire que, à la différence de l'image qui n'a pas d'autre signification que matérielle, une idée a une signification intellectuelle, c'est-à-dire elle désigne des choses et c'est en quelque sorte une hypothèse sur l'essence d'une chose. Voilà, quand je dis que ceci est une bouteille ou ceci est un micro, d'une certaine manière je pose une affirmation ou une identité. Mais ça, pour Descartes, c'est un acte de l'esprit. Alors, à partir de Descartes, et la notion d'idée va jouer un rôle considérable dans les méditations, car c'est là-dessus qu'est fondée l'existence de Dieu, et pas sur l'ordre du monde ou sur la révélation, c'est fondé sur le fait que j'ai l'idée de Dieu dans mon esprit. Donc à partir de cela, tous les philosophes qui vont suivre vont tourner autour de cette conception de l'idée. Ils vont sans doute reconnaître que l'idée est quelque chose d'intellectuel et pas quelque chose de corporel, mais ils vont la plupart du temps refuser de penser que l'idée est en quelque sorte une propriété de l'esprit humain. C'est trop donné à l'esprit humain que de lui conférer des idées des choses, et surtout des idées qui peuvent être, selon la formule célèbre de Descartes, claires et distinctes. Donc ils vont tous s'efforcer de montrer que l'idée n'est pas la propriété de l'entendement humain, mais que l'idée est soit en Dieu, ça c'est Malebranche, que l'idée est soit, d'une certaine manière, c'est Spinoza aussi, dans l'entendement divin, c'est d'être dans le mode de la pensée, de montrer avec Leibniz que l'idée est au fond définie par des caractères logiques et non pas par des caractères d'évidence qui semblent à Leibniz de nature psychologique. Et ça, tout cela aboutit à la refonte empiriste de la notion d'idée qui va chercher justement à montrer la continuité entre les impressions sensibles, les sensations et l'idée qui se forme dans l'esprit sans qu'il y ait pour autant un caractère intellectuel à cette idée. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que on peut lire la philosophie moderne d'une façon presque sans traduction, si je puis dire, en passant d'un auteur à un autre, parce qu'on a ce fil conducteur de l'idée. On retrouve toujours chez l'un et chez l'autre, et évidemment, chez chacun d'eux, il y a la référence à Descartes, qui le premier a posé que...
Le premier
a posé que l'idée était le véritable objet de la connaissance.
Et ça va très loin quand même, cette prise de position philosophique. C'est un parti pris philosophique de dire que l'idée est le premier objet de la connaissance, parce que ça veut dire que nous n'avons pas accès aux choses elles-mêmes, au monde lui-même, mais à l'idée que nous nous en faisons.
Alors, à l'idée que nous en avons,
plutôt que nous en faisons.
C'est-à-dire que c'est pas une impression subjective, c'est pas mon regard, je vois le monde tel que je suis, etc. Non. Et chez Descartes, c'est plus objectif d'une certaine manière, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir de rapport aux choses en tant qu'elles sont matérielles sans les penser. Moi qui suis une chose qui pense. Et je ne peux pas les penser autrement que par des idées.
Les idées sont les moyens de la pensée.
Voilà, les idées sont les moyens de la pensée, mais les idées sont les idées des choses, toujours. Et ça fait pas un doublon. C'est pas, il y a pas d'un côté la chaise et de l'autre l'idée de la chaise. Quand je vois la chaise, j'ai l'idée de la chaise. Et ça n'est pas de l'idéalisme, c'est pas au sens où je vois des idées, comme ce sera le cas chez Berkeley, qui est un auteur dont, hélas, j'ai pas pu parler dans ce livre, mais c'est au sens où l'idée, c'est la signification que j'appose sur une chose que je vois. Mais cette signification, elle est intellectuelle, c'est-à-dire c'est un acte de l'esprit. C'est pas les choses qui se présentent à moi en disant « Coucou, je suis un fauteuil, je suis une bouteille ». Non, c'est moi qui les constitue.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de perception des choses chez Descartes sans en avoir une idée ? Que toute perception est forcément intellectuelle.
Mais c'est la même chose. La perception et l'idée, c'est la même chose. C'est-à-dire que Descartes définit l'idée comme une perception de l'esprit. Et cela, c'est un point qui va lui être tout à fait contesté. Qui dit perception de l'esprit, dit d'une certaine manière que l'esprit organise sa connaissance. Et du coup, cette connaissance, elle est relative à l'esprit humain. Les post-cartésiens sont des gens beaucoup plus absolutistes que Descartes. C'est-à-dire, ils veulent que la connaissance soit la connaissance des choses elles-mêmes. Ce qui, chez Descartes, poserait un problème. Car, bien sûr, ce sont les choses elles-mêmes et pas les phénomènes au sens kantien. Mais ce sont les choses elles-mêmes via les idées que j'en ai.
Mais ça, c'est passionnant. Alors, pourquoi, dans ce cas, n'est-il pas un idéalisme? Vous avez dit non, mais c'est l'idée de la chose. Il n'y a pas de différence entre l'idée de la chose et la chose elle-même. Et pourtant, ce n'est pas la chose elle-même non plus.
Oui. Ah, pourquoi il n'était pas idéaliste? Ça, on l'a poulé sur le refaire. Beaucoup de gens pensent que c'est un philosophe idéaliste. Moi, personnellement, je ne pense pas. Et je ne pense pas parce que c'est une philosophie tellement puissante et tellement originale qu'elle évite les débats ou les classements, les catégories matérialisme, idéalisme, empirisme, sensualisme, intellectualisme, etc. Alors, Pourquoi idéaliste? Si par idéalisme on entend que la connaissance est un acte de l'esprit, autrement dit que je ne suis pas un miroir qui réfléchit le monde. Et d'ailleurs, le fait est qu'on ne réfléchit pas le même monde, si je puis dire, chacun d'entre nous. Donc, il y a bien une part active de l'esprit qui, au fond, se représente le réel auquel il a affaire, qui ne se borne pas à le vivre en étroite contiguïté, en étroite liaison avec lui, mais qui se le représente, et qui se le représente par une idée. Encore une fois, une idée, c'est pas un tableau, c'est pas un écran, c'est pas une étiquette, c'est un point de vue sur la chose qui me permet, justement, de la distinguer d'une autre chose. Une idée, c'est comme une lumière qui permet de distinguer une chose d'une autre, sinon ce serait l'obscurité, ce serait la nuit noire où je verrais rien. L'idée, c'est un point lumineux. Donc, en un sens, ça n'a rien de savant, l'idée chez Descartes. C'est pas quelque chose de très spéculatif
elle
ni de trop compliqué.
Elle n'implique pas de connaissance précise.
Non, elle n'implique pas de. C'est une perception. Avant même, alors après, il peut y avoir un travail de la connaissance, mais c'est d'abord une perception, et c'est une perception de l'esprit. C'est pour ça que pour Descartes, la connaissance est malgré tout toujours relative à l'esprit humain. Et que il recommande justement dès son premier ouvrage de faire en un sens l'inspection de l'esprit humain avant de se lancer dans la connaissance des choses pour savoir jusqu'où on peut aller. C'est pas pour rien que le texte des Régulés a été considéré par les philosophes post-kantiens, Nator, Cohen, comme au fond le début de la philosophie critique. Ce qui n'est pas faux. Mais il y a autre chose chez Descartes que cette philosophie critique, c'est-à-dire il y a autre chose que le fait de ramener, c'est ça, la question de la philosophie à l'examen du pouvoir de la connaissance, il y a aussi, et peut-être même surtout, la prétention en tout cas, à dire ce que sont les choses essentiellement.
Alors, écoutons la définition que Descartes lui-même propose de l'idée, du nom d'idée, dit-il. C'est un extrait des secondes réponses aux méditations métaphysiques de 1641.
Par le nom d'idée, j'entends cette forme de chacune de nos pensées par la perception immédiate de laquelle nous avons connaissance de ces mêmes pensées. En telle sorte que je ne puis rien exprimer par des paroles lorsque j'entends ce que je dis, que de cela même il ne soit certain que j'ai en moi l'idée de la chose qui est signifiée par mes paroles. Et ainsi je n'appelle pas du nom d'idée les seules images qui sont dépeintes en la fantaisie. Au contraire, je ne les appelle point ici de ce nom, en tant qu'elles sont en la fantaisie corporelle, c'est-à-dire en tant qu'elles sont dépeintes en quelque partie du cerveau, mais seulement en tant qu'elles informent l'esprit même qui s'applique à cette partie du cerveau.
Je n'essaie pas de montrer comment un discours peut arriver finalement à énoncer la vérité des choses, mais j'essaie de montrer comment, à partir d'un certain nombre de choses, à vrai dire, des éléments comme des institutions, des pratiques sociales, des techniques, etc., comment, à partir de ces choses, peut naître une pratique spécifique qui n'est pas le reflet des premières, mais qui pourtant prend appui sur elle, pratique spécifique qui est la pratique du discours. Et c'est ce rapport antérieur des choses avec le discours, c'est ça que j'essaie de faire apparaître. Et c'est en ce sens une question qui est tout à fait extérieure à la philosophie, dans la mesure où la philosophie a toujours posé le problème, savoir comment, de l'intérieur de ma conscience, est-ce que je peux arriver jusqu'à l'extériorité des choses. Enfin, ça a été toute la grande question de la philosophie, c'est-à-dire de l'idéalisme. Car toute philosophie, au fond, est idéaliste, et dès qu'une philosophie n'est plus idéaliste, elle n'est pas une philosophie. Eh bien, ma question n'est pas une question philosophique, ce n'est pas non plus une question idéaliste, c'est tout l'inverse. Le problème est de savoir comment, de l'extérieur des choses, on peut arriver à un ensemble de règles qui régissent de l'intérieur une pratique discursive.
Finalement, c'est Foucault lui-même qui aurait pu vous poser la question que je vous ai posée à Pierre Ganancia, puisque Foucault définit toute philosophie digne de ce nom comme étant nécessairement idéaliste. Mmh. Ce qui est une manière de traduire à sa façon la démarche de Descartes, parce que pour le coup, le reste est fidèle à la démarche de Descartes.
Mmh, mmh. Je crois qu'on trouve quelque chose d'équivalent chez Heidegger, justement, qui dit, au fond, dire parler de la philosophie idéaliste, c'est comme parler de la botanique des plantes. Hein. C'est-à-dire, bon, dans la mesure où la philosophie s'intéresse à l'esprit et pas à la matière, c'est pas de la physique ou à la matière vivante, c'est pas de la biologie, dans la mesure où c'est l'esprit, la matière, si je puis dire, non matérielle de la philosophie, bien sûr que la philosophie est idéaliste. Mais à partir de là, tout est possible. Il y a un idéalisme matérialiste, il y a un idéalisme
idéalisme, tout est possible. Mais idéalisme, dans le sens où Foucault en parle, ou Heidegger, c'est une constatation, c'est-à-dire que la philosophie a affaire à des significations, ou à des idées. Alors, chez Foucault, chez le premier Foucault, ces significations sont discursives. Bon, chez les philosophes que j'étudie, je pense qu'elles sont, avant d'être discursives, elles sont mentales, elles sont intellectuelles.
Donc vous faites une distinction entre les deux, c'est-à-dire une idée n'est pas forcément ce qu'on va appeler aujourd'hui un signe, un élément d'un discours.
Bien sûr. L'idée, en tout cas chez les philosophes que j'étudie, et je pense qu'ils ont raison, l'idée est d'abord une perception. Cette perception est d'une certaine manière évidemment coulée dans une forme qui est une forme verbale, qui peut être un signe au sens très général du terme, mais le signe n'est pas, pour ainsi dire, l'essence de l'idée. L'idée se donne un signe pour se faire comprendre, mais le signe sans l'idée, ça serait rien. Ce serait un flatus vocis, ce serait pas du tout une pensée dans l'entendement. Donc, je crois qu'on a beaucoup trop insisté, bon, peut-être qu'on aura un effet de balancier bien connu, on a beaucoup trop insisté sur le rôle du langage, du discours, dans la connaissance, dans la production. D'ailleurs, les philosophes du XVIIIe siècle vont beaucoup insister sur le discours et le langage, Condillac, etc. Mais je pense qu'on ne résout pas pour autant le problème de l'articulation de la pensée et de son mode d'expression, qui sont deux choses, je crois, différentes, même si elles sont corrélées, évidemment, étroitement.
Alors, vous faites de l'utilisation par Descartes de l'idée en philosophie, la naissance de la philosophie moderne, ce qui est simultané avec la naissance aussi d'une forme de sujet en philosophie.
Bien sûr.
Et pourtant, chez Descartes, l'idée elle-même, la question de l'origine de l'idée, implique un recours à autre chose qu'au sujet lui-même. Finalement, Dieu a besoin d'être présent pour pouvoir justifier, prouver, ne serait-ce que nous pouvons avoir en nous l'idée même
bien sûr,
de Dieu.
Bien sûr, c'est très juste. Simplement, le sujet cartésien, si on peut parler comme ça, alors que Descartes ne parle pas comme ça, c'est vraiment à partir de Kant qu'on peut parler du sujet au sens moderne du terme. Le sujet cartésien n'a pas pour office, ni pour fonction, ni pour pouvoir de, d'une certaine manière, se donner l'ensemble du réel sous la forme de concepts, d'idées ou de discours. Il reconnaît dans son exercice quelque chose qui ne dépend pas de lui. Ça, c'est essentiel chez Descartes. Parce que Descartes commence par s'enfermer dans son intérieur, comme il dit, et donc il se pose la question, est-ce que dans cet intérieur, il y a quelque chose qui me force à admettre une extériorité ? Donc ce problème de l'extériorité est absolument fondamental chez Descartes. Il est premier d'une certaine manière. Et vous voyez, c'est pas parce que Descartes commence par l'idée qu'il s'enferme dans son intériorité, ou plus, il s'enferme dans son intériorité, c'est-à-dire dans les idées, pour trouver dans les idées la marque, la trace de ce qui est hors idée, de ce qui est une réalité extérieure à l'idée. C'est ça l'idée de Dieu, notamment. Ça montre que cette idée n'a pas pu être produite par moi. Par conséquent, il doit exister une cause qui produise cette idée en moi, puisque moi, je n'ai pas le pouvoir de la produire. Donc, on ne peut pas parler d'un sujet qui est en quelque sorte autoproducteur, qui se produit lui-même comme sujet. On n'est pas à l'ère du sujet constituant ou du sujet transcendantal. Non, je ne crois pas, justement. On ferait une erreur, je crois, en parlant chez Descartes de philosophie transcendantale. C'est une philosophie beaucoup plus directe que la philosophie transcendantale. C'est pas une Bien sûr qu'elle pose la question de la condition de possibilité. Mais ce qui intéresse Descartes et ce qui intéresse nos bons hommes qui suivent après lui, c'est quand même la structure de l'objet lui-même. Des objets eux-mêmes, que ce soit Dieu, que ce soit les corps physiques, que ce soit les idées, bien sûr, que ce soit les États ou les institutions, par exemple chez Hobbes, toutes ces choses-là, ce sont des objets, d'une certaine manière, que le sujet peut comprendre, définir, expliquer, mais qu'il n'est pas dans sa capacité de produire.
Ni forcément d'expliquer intégralement. Différences entre Descartes et ceux qui lui succéderont est que Descartes a une conscience très forte de sa finitude,
bien sûr.
De la finitude de son entendement, qui est la différence de la liberté, par exemple, qui est également infinie, qui est égale, disons, dans son infinité à celle de Dieu. L'entendement humain, au contraire, est fini. Ce qui fait que la recherche des structures même, pas forcément de la connaissance, que vous disiez qu'il n'y a pas une perspective transcendantale, mais que l'examen quand même de cette modalité de connaissance va avoir une fin, une limite. Dans la même perspective, on a par exemple Pascal qui a une conscience également aiguë de la finitude et qui, pour le coup, humilie l'homme par rapport à l'infinitude de Dieu. Mais on a aussi, par exemple, Leibniz qui lui pose, alors d'un point de vue scientifique, alors que Descartes dit qu'on ne peut pas connaître la raison de toute chose, Leibniz pose allègrement le principe de raison suffisante en montrant qu'en droit, l'intellect de l'homme est égal à celui de Dieu.
Comme chez Spinoza. L'âme humaine est une partie de l'entendement divin et par conséquent, elle peut
arriver à connaître les choses adéquatement, c'est-à-dire comme Dieu les connaît. Ça, pour Descartes, ce serait une hérésie. C'est pas simplement d'un point de vue religieux, c'est pas qu'on humilie Dieu ou qu'on ne le respecte pas, c'est que, plus exactement, on ne respecte pas la vérité humaine, c'est-à-dire la vérité de ma connaissance et de mon expérience, etc. On va très au-delà de cela, et c'est ça qui est assez frappant. Alors, juste un mot pour le rapport infini-fini. C'est vrai, l'infini chez Descartes, il n'est connu qu'à travers l'idée d'infini, c'est-à-dire que c'est une idée qui me fait paraître l'infini clair et distinct, mais l'infini est incompréhensible. Il dépasse de toutes parts la capacité finie de mon entendement. Il la dépasse, mais il ne l'écrase pas. Parce que sans cette référence à l'infini, en un sens, je ne pourrais rien connaître. Connaître, ça implique toujours une processualité, une progression. Et cette progression, tout en n'étant pas infinie, étant indéfinie, a à voir avec l'infini. C'est-à-dire, c'est sur le sol, si je puis dire, de l'infini, que ma connaissance procède étape par étape, degré par degré. Et donc, en un sens, l'infini chez Descartes, l'idée d'infini, tout en étant l'idée d'une chose incompréhensible, donne, si je puis dire, du mouvement à l'esprit pour aller plus loin et pour lui permettre de... Tandis que l'infini pascalien est, d'une certaine manière, une sorte d'occultation de l'exercice de l'esprit. L'infini, c'est comme la nuit chez Pascal, c'est-à-dire ça obscurcit complètement. C'est quelque chose qu'on prend en pleine figure, si je puis dire, c'est pas du tout quelque chose qu'on se représente. Et donc, chez Pascal, il y a évidemment un effet tragique de l'infini. On est entre deux infinis, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Mais c'est pas par l'infini que Pascal se représente Dieu. Ce serait, à ses yeux, beaucoup trop le rendre un être métaphysique. Alors que Dieu, c'est ni l'infini ni le fini. C'est ce qui dépasse toutes les oppositions dans lesquelles les hommes, enfin, qui sont celles des hommes, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a ce rapport à l'infini. Mais ce rapport à l'infini, chez Pascal, c'est un rapport, en un sens, d'éloignement. Et donc, il y a un recentrement de l'homme sur lui-même, mais avec cette sorte de perte, qu'est la perte de la clarté. L'infini, c'est une nuit. L'infini, c'est une obscurité. C'est pas du tout. Alors, par la suite, l'infini va redevenir, si je puis dire, clair, avec Spinoza, avec Leibniz, etc. Mais c'est pas le même infini que celui de Descartes. Déjà, parce que c'est un infini que, d'une certaine manière, on comprend, et pas simplement on conçoit. Et puis, aussi parce que c'est un infini qui va rentrer dans les choses. Les choses sont infinies. Jamais pour Descartes. Les choses sont finies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, bon, on peut peut-être développer indéfiniment la structure de la matière et la structure, mais fini, ça veut dire que, d'une certaine manière, les choses sur lesquelles on tombera, les propriétés qu'on tombera, elles seront compréhensibles par l'esprit. On pourra en faire le tour. Alors que l'infini, c'est justement ce dont on ne fait jamais le tour. Comme la liberté, par exemple.
Il faut dire aussi que pour Descartes, le monde est compréhensible, disons, enfin, en tout cas dans le meilleur des cas, dans un monde idéal, par un langage absolument mathématique. Là, c'est aussi la conception scientifique qui lui permet il a besoin de postuler une connaissance qui puisse être finie parce que elle doit être ressaisissable par un intellect scientifique.
Alors là, je suis moins d'accord avec vous. Je sais que c'est une idée qui est assez fréquente, une intelligence mathématique du réel. Déjà, bon, mathématique pour Descartes, ça veut dire quelque chose de très simple, hein. C'est pas les mathématiques qu'il fait en tant que mathématicien. Mathématique, ça veut dire qu'un objet, cette table par exemple, elle est circulaire, on peut la mesurer, on peut la peser, on peut voilà, elle peut être réductible. C'est ça que veut dire mathématique. C'est vraiment quelque chose de très simple, c'est-à-dire c'est la matière n'a pas de secret. La matière, c'est l'étendue. En longueur, largeur et profondeur. Voilà ce que ça veut dire. Mais Descartes ne mathématise pas le réel. C'est pas Galilée. Regardez les quelques essais de Descartes pour formaliser, par exemple, une relation comme la vitesse et le mouvement dans la chute des corps, etc. Mais il se trompe d'une certaine manière parce qu'il formalise pas. Il ne formalise pas assez. Regardez les principes de la philosophie. La deuxième partie, la troisième partie, c'est qui concerne la science. Mais il n'y a pas une équation là-dedans.
Non, mais lui-même dit dès les règles pour la direction de l'esprit vouloir cultiver autant qu'il a été en moi cette mathématique universelle, si bien que désormais je crois pouvoir m'occuper sans que ce soit par zèle prématuré de science un peu plus élevé. Il a quand même ce rêve, inachevé certes, mais d'une mathématique universelle.
Oui, mais plus élevé que les mathématiques, justement. C'est science plus élevée que les mathématiques qu'on pratique. C'est-à-dire, au fond, qui sont pour Descartes un excellent outil, un excellent exercice de l'esprit, ça le purifie, hein, c'est comme une gymnastique, c'est comme un... Hein, voilà. Mais c'est pas avec ça qu'on va connaître les choses. Malgré tout, la connaissance des choses, elle reste métaphysique chez Descartes. Elle a pour fondement la métaphysique, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire la nature de notre âme, c'est-à-dire la nature de notre corps, c'est-à-dire, in fine, la nature de l'homme.
When we are dancing and you're dangerous, lending me. I get ideas. I want to hold you so much closer than I dare to. I want to scold you, 'cause I care more than I care to. And when you touch me and there's fire in every finger, I get ideas. Yes, I get ideas. And after we have kissed goodnight, still you linger. I kind of think you get ideas too. Your eyes are always saying the things you never say. I only hope they say that you could love me too. For that's the whole idea. It's true. Lovely idea that I fall in love with you.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Bienvenue sur les chemins du vendredi où j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous faire entendre la trompette de Louis Armstrong, mais aussi la voix de Pierre Guenancia qui vient vous parler de son dernier ouvrage publié au PUF dans la collection Une histoire personnelle de la philosophie et qui s'intitule La voix, V-O-I-E, des idées de Descartes à Hume.
After we have kissed goodnight, still you linger. Babe, I kind of think you get ideas too.
Ayant deux choses en l'âme humaine, desquelles dépend toute la connaissance que nous pouvons avoir de sa nature, l'une desquelles est qu'elle pense, l'autre qu'étant unie au corps, elle peut agir et pâtir avec lui. Je n'ai quasi rien dit de cette dernière, et me suis seulement étudié à faire bien entendre la première, à cause que mon principal dessein était de prouver la distinction qui est entre l'âme et le corps, à quoi celle-ci seulement a pu servir, et l'autre y aurait été nuisible. Mais parce que votre Altesse voit si clair qu'on ne lui peut dissimuler autre chose, je tâcherai ici d'expliquer la façon dont je conçois l'union de l'âme avec le corps, et comment elle a la force de le mouvoir. Premièrement, je considère qu'il y a en nous certaines notions primitives, qui sont comme des originaux, sur le patron desquels nous formons toutes nos autres connaissances. Et il n'y a que fort peu de telles notions, car, après les plus générales, de l'être, du nombre, de la durée, etc., qui conviennent à tout ce que nous pouvons concevoir, nous n'avons, pour le corps en particulier, que la notion de l'extension, de laquelle suivent celles de la figure et du mouvement. Et pour l'âme seule, nous n'avons que celle de la pensée, en laquelle sont comprises les perceptions de l'entendement et les inclinations de la volonté. Enfin, pour l'âme et le corps ensemble, nous n'avons que celle de leur union, de laquelle dépend celle de la force qu'a l'âme de mouvoir le corps et le corps d'agir sur l'âme en causant ses sentiments et ses passions.
Alors même que Descartes propose de se tourner vers les idées, on vient d'en parler longuement, Pierre Guenancia, il se tourne également vers les passions et va proposer ce que vous présentez comme étant une nouvelle approche de l'affectivité, puisque Descartes, le premier là aussi également, va montrer la capacité du sujet à se distancier de ce que nous nommons les passions, notamment par l'examen de ce qui est devenu aujourd'hui un thème très classique dans la philosophie moderne, du rapport entre le corps et l'âme. On vient d'entendre un extrait de la lettre à Élisabeth du 21 mai 1643, interprété par Jean-Louis Jacopin, où il met en place cette manière d'essayer de ressaisir l'union de l'âme et le corps, notamment dans et par les passions.
Alors ça, c'est le deuxième, si je puis dire, grand chapitre, et d'ailleurs c'est celui qui m'intéresse peut-être le plus. Si je peux me permettre une note personnelle, c'est par là que je suis rentré dans Descartes. par le dernier Descartes. Et j'ai remonté la filière, si je puis dire, jusqu'à l'idée. J'y ai vu une grande cohérence. Mais peut-être que j'y ai vu une grande cohérence parce que j'ai commencé par la fin. C'est-à-dire, j'ai commencé par ce que beaucoup de commentateurs rejettent comme étant finalement un Descartes, un sous-Descartes, quoi. C'est-à-dire, bon, après la grande métaphysique, après l'épreuve de l'existence de Dieu, les passions, bon, au fond, c'est quelque chose qui témoigne d'un certain éclectisme méthodologique, etc. Je crois que pas du tout. Je crois que c'est vraiment en un sens, le secret de la pensée de Descartes, c'est les passions, c'est l'union de l'âme et du corps, comme d'ailleurs l'avait fort bien vu Merleau-Ponty, qu'il faut saluer de ce point de vue-là. Les notes de Merleau-Ponty sur Descartes sont absolument remarquables de lucidité. Voilà, comme d'ailleurs tout récemment, Jean-Luc Marion vient d'y insister à partir de la passivité. Ça, je crois que c'est un excellent point de départ. C'est-à-dire que c'est à partir de la passivité ou de la passion qu'il faut remonter jusqu'à la métaphysique. En un sens, la morale a quelque chose d'éclairant sur la métaphysique. Alors, ce qui veut dire, dans ce qui nous occupe, que les passions, bien sûr, sont produites dans l'âme par le corps, par les mouvements corporels, bien sûr. Mais les passions, chez Descartes, sont bien sûr des affections, encore qu'il n'utilise pas le mot, mais ce sont des représentations, ce sont des idées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas chez Descartes, justement, cette distinction qui, à mon avis, est une distinction dangereuse entre l'affect et la représentation, entre la nature représentative de l'idée et la nature affective de la sensation, par exemple. Non, toute sensation est représentative de son objet, même si cet objet est confus. Et donc, d'une certaine manière, l'entendement est toujours présent chez Descartes. Il n'y a pas une suspension de l'entendement dans l'amour, dans la haine, dans la joie, dans la tristesse, dans la colère. C'est toujours avec mon esprit que je ressens les passions. Et donc, en ce sens, il y a une parfaite continuité entre la philosophie des idées dont on a parlé et la philosophie qui s'occupe des idées, non pas en tant qu'elles sont de pures idées, si je puis dire, mais en tant qu'elles sont des idées liées, justement, au fonctionnement de mon corps.
Mais là, il reste plus grand-chose de dualiste dans cette approche.
Non, il reste plus grand-chose de dualiste, mais
ça donne raison au monisme de Spinoza, qui, effectivement, ferait des idées le reflet des passions du corps.
Bien sûr, mais Spinoza, il a pris quand même beaucoup de choses chez Descartes, hein, en semblant trouver tout de lui-même. Hein. Et je crois que, bon, effectivement, il a parfaitement vu ça, même s'il rejette, évidemment, l'explication cartésienne comme étant la plus occulte que toute qualité occulte, dit-il. Mais c'est pas parce que Descartes reconnaît la légitimité, la validité, voire l'obscurité d'ailleurs de l'union de l'âme et du corps et de ses effets, c'est-à-dire les passions, que c'en est fini de la conception de l'âme comme distincte du corps et des idées comme mode de l'âme. Il y a des registres chez Descartes, il y a des niveaux de philosophie. La philosophie chez Descartes, elle se situe, c'est pas un tout à prendre ou à laisser, non, il y a des régions. On pourrait parler comme ça. Et à chaque région correspond sa méthode, correspond sa façon de comprendre. Voilà. Et il faut adapter la façon de comprendre à la nature de l'objet auquel on a affaire. Et quand il est question de l'homme et des passions, il ne faut pas penser en termes de dualisme. Il faut au contraire penser. D'ailleurs, il ne faut pas penser en termes de dualisme. D'une certaine manière, le dualisme aide à penser l'union. Bon, mais c'est un problème un peu compliqué sur lequel je ne vais pas m'étendre. Mais le traité des passions de l'âme commence par rappeler la distinction entre l'âme et le corps pour savoir finalement d'où ça vient, quoi, les passions. Et ne pas prendre pour des pensées de l'âme des choses qui sont des mouvements du corps ou des mouvements produits dans l'âme par le corps. Comme si on était en un sens aliéné par cette représentation du corps que l'on prend pour soi. Il ne faut pas prendre pour soi tout ce qui nous arrive. Ce n'est pas parce que j'éprouve un fort amour ou une forte haine que, d'une certaine manière, c'est moi qui suis engagé. C'est un choix conscient, volontaire et clair. Non. Ça peut être un choix dicté d'une certaine manière par les mouvements de mon corps. Regardez l'exemple célèbre de la jeune fille louche, hein, qui est dans Descartes.
Dans Descartes était amoureux.
Voilà, dans Descartes était amoureux quand il était jeune, dit-il. Et il dit, je sais pas pourquoi, après, chaque fois que je voyais une personne louche, j'avais une dilection particulière pour elle. Jusqu'à ce que finalement je fasse une sorte de psychanalyse sauvage, enfin il dit pas ça, hein, mais, et que je m'aperçoive que c'est parce que, au début de ma vie ou dans ma toute jeune enfance, j'ai été frappé par ça. Mais qu'est-ce qui a été frappé chez Descartes par ce strabisme? Qu'est-ce qui a été frappé? Ben c'est les yeux, c'est le cerveau, c'est les nerfs, c'est la machine, si je puis dire. Et c'est la machine qui produit, d'une certaine manière, cette orientation, ce choix, cette direction. À partir du moment où je sais que c'est un choix de machine, si je puis dire, et pas un choix conscient et volontaire, bon, et là, c'est l'optimisme de Descartes, ben je peux m'en détacher. Dès lors que je sais que c'est pas finalement moi qui ai choisi, mais d'une certaine manière, les circonstances, la nature de mon corps et la nature des corps extérieurs, au fond, je suis moins engagé dans ce processus de dilection et d'amour. Il est moins personnel qu'il ne le semblait.
Et pourtant, les passions restent des idées, vous l'avez dit.
Et les passions restent des idées. Comme la chaleur, l'impression de chaleur est une idée. Ce qui va devenir chez les sensualistes, chez les empiristes, justement une impression, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas représentatif, mais qui pousse d'une certaine manière, comme une force, comme un corps qui pousse un autre, hein, qui n'est pas représentatif, et qui va donner ensuite l'idée, mais sur le mode d'une copie, chez Descartes, c'est une idée. La chaleur, le froid sont des idées. Les idées des choses sensibles ne sont pas moins des idées que les idées des choses intellectuelles. Ça me paraît une décision philosophique fondamentale.
Alors, qu'en est-il, pour ouvrir à d'autres philosophes, ce que vous explorez dans votre ouvrage, parce que finalement, nous parlons beaucoup de Descartes, puisqu'il se trouve tout au long de cet ouvrage,
mais c'est souvent, oui.
Pour ceux qui n'auraient pas le livre entre les mains, ce qui est un tort et ce que j'invite à corriger immédiatement, on trouve quatre parties, où dans la première, c'est Descartes et Malebranche, puis Pascal et Hobbes, Spinoza et Leibniz, et enfin John Locke et David Hume. Donc là, on voit à quel point vous allez, alors non seulement vous élargissez le prisme philosophique au-delà du démon cartésien, mais vous faites aussi des associations assez inattendues. Dans Pascal et Hobbes, on découvre que voilà, pour vous, il y a une forme d'anthropologie continue, ce qui n'est pas forcément évident. Mais alors voilà, essayons pour ouvrir un peu la discussion vers d'autres horizons. À partir de ce que vous venez de dire, et notamment du coup, si la passion elle-même est une idée, si le dualisme semble être relativement remis en cause dans et par les passions, qu'en est-il pour Descartes? Comment conçoit-il ce qu'on appelle le moi? Le moi peut-il être une idée? Ou est-il simplement vécu comme tel? Quel est ce sujet qui arrive à dire voilà, je pense, j'existe, et qui ne se réduit pas pour autant à une faculté purement rationnelle?
Ah, c'est une question difficile, hein, parce que on a établi que au fond Pascal était sans doute le premier à nominaliser le terme moi, c'est-à-dire à dire le moi. C'est vrai que Descartes ne dit pas le moi, il dit moi, il parle ego quand il en latin, mais la chose qu'il pense, mais pas le moi au sens pascalien, c'est-à-dire dans le sens d'un personnage, d'une certaine manière, d'un personnage qui habite mon esprit et qui le dirige et qui l'obnubile et qui le captive d'une certaine manière. Il n'y a pas cette idée chez Descartes, même si Pascal est un lecteur de Descartes. Hein, et il a beaucoup pris à Descartes, sans doute que l'ego cartésien, il transparaît dans les pensées de Pascal. Mais si on peut le dire en un mot, je crois que, en un sens, l'homme cartésien ne se définit pas comme un moi, au sens égoïste, égocentrique, au sens de l'anthropologie, vous voyez. L'homme cartésien, il se définit par un entendement, par une volonté, c'est-à-dire par finalement des facultés qui chacune s'occupe d'une question ou d'un objet, etc. Mais ça ne se centralise pas autour d'un sujet unique dont elle serait comme les ramifications. Je crois qu'il y a chez Descartes, justement, il n'y a pas plutôt chez Descartes cette idée du moi comme centre de mes pensées. Certes, l'ego est la source, d'une certaine manière, de mes pensées, mais c'en est pas le centre. Alors que Pascal, au fond, dont le point de vue est anthropologique, fait du moi le centre de nos pensées. C'est-à-dire qu'au fond, chacun ne pense qu'à soi. Ce qui est au fond, la maxime de l'égoïsme, et je crois qu'il y a chez Descartes, la doctrine de la générosité exclut radicalement la possibilité de l'égoïsme comme nature générale de l'homme, en tout cas.
Et ce qui fait dire à Pascal que le moi est haïssable.
Vous, Miton, le couvrez, vous ne l'ôtez point pour cela. Vous êtes donc toujours haïssable. Point, car en agissant comme nous faisons obligeamment pour tout le monde, on n'a plus sujet de nous haïr. Cela est vrai. Si on ne haïssait dans le moins que le déplaisir qui nous en revient. Mais si je le hais parce qu'il est injuste qu'il se fasse centre de tout, je le haïrai toujours. En un mot, le moi a deux qualités. Il est injuste en soi en ce qu'il se fait centre de tout. Il est incommode aux autres en ce qu'il veut les asservir, car chaque moi est l'ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres. Vous en ôtez l'incommodité, mais non pas l'injustice. Et ainsi, vous ne le rendez pas aimable à ceux qui en haïssent l'injustice. Vous ne le rendez aimable qu'aux injustes, qui n'y trouvent plus leur ennemi. Et ainsi, vous demeurez injuste et ne pouvez plaire qu'aux injustes.
C'est le fragment 597 dans l'édition La Fuma des pensées de Pascal, Le moi est haïssable, ici interprété par Anna Mouglalis. C'est un texte qui finalement est assez compliqué, hein, Pierre Guénantia.
Oh là, c'est horrible.
Le rapport horrible, dites-vous, c'est bien le cartésien qui parle. Les textes de Descartes aussi sont beaucoup plus compliqués
qu'il n'y
paraît.
Beaucoup plus simple, non,
pas toujours, vous n'êtes pas de bonne foi.
Pascal, c'est indéfini.
Et notamment ici, parce qu'on entend bien, il parle de du moi haïssable. Et il y intègre, disons, la notion de justice et d'injustice, ce qui complique considérablement les choses. Mais ce qui nous permet, ce qui éclaire aussi, ce qui nous renseigne quant à cette anthropologie pascalienne que j'évoquais tout à l'heure, puisque dans votre livre, vous l'associez, j'aimerais vous entendre sur ce point, vous établissez une continuité entre l'anthropologie pascalienne et l'anthropologie définie par Hobbes dans le Léviathan.
Oui, une certaine ressemblance ou continuité, mais même pas seulement. On peut dire aussi chez Spinoza qu'il y a une part d'anthropologie qui est large. Commune à ces
qui s'oppose à Descartes, mais qui leur est commune.
Qui s'oppose à Descartes. Au fond, les trois s'opposent à Descartes par une vision anthropologique de l'homme qui est fondée notamment sur ce qu'on pourrait appeler le conatus, c'est-à-dire l'effort pour persévérer dans son être et le fait de désirer toujours davantage et de ne pas pouvoir être satisfait. Alors chez Spinoza, c'est l'homme du commun, c'est quand on est dans l'ordre commun de la nature. Il y a mieux, mais il faut beaucoup d'efforts. Mais chez Pascal et chez Hobbes, c'est absolument indépassable. La situation de l'homme dans le monde est indépassable en ce sens que c'est une situation d'insatisfaction fondamentale. Et par conséquent, l'homme est un être de désir, l'homme est un être d'insatisfaction, et l'homme est un être pour qui les autres êtres sont potentiellement des ennemis. Justement, étant centré sur lui, cherchant avant tout sa conservation, les autres lui apparaissent comme des ennemis. Alors, la solution, évidemment, elle diffère chez Hobbes et chez Pascal. Chez Hobbes, ça va être l'institution d'un État, avec des règles, des lois et un souverain tout-puissant. Chez Pascal, ça va être, au fond, la conversion, c'est-à-dire le changement du moi. Le moi, au lieu de se penser comme un tout, il va se penser comme le membre d'un tout, qu'est l'Église ou qu'est le corps de Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, l'amour qu'il se porte à lui-même ne sera plus injuste, parce qu'il aimera le tout duquel il fait partie, et il ne s'aimera plus lui-même comme un tout. Voilà, ça évidemment c'est une différence fondamentale entre Pascal et Hobbes, mais il me semble que cette différence, elle part d'un constat anthropologique commun. Et ce constat anthropologique commun, auquel on pourrait d'ailleurs associer Spinoza, ce constat anthropologique est tout à fait opposé à l'explication et à la conception cartésienne de l'homme.
Mais est-ce délibéré de leur part ? Là, c'est en rentrant dans les ressorts de l'histoire de la philosophie, mais c'est assez passionnant de voir si de leur part, c'est justement, puisqu'ils ont lu Descartes, tous les trois, si c'est une manière de contredire ce qui a été avancé par Descartes, y compris, par exemple, dans les paroles de la générosité que vous évoquiez, ou si, pour le coup, c'est une prise de position anthropologique qui est complètement indépendante du geste cartésien.
Je crois que je vais être, une fois n'est pas coutume, bergsonien. C'est-à-dire que vous connaissez la célèbre théorie de Bergson comme quoi un philosophe a une intuition fondamentale. Et c'est ça qui dirige tout le reste de sa vie.
Qui est contenu en un point si simple, si extraordinairement simple, qu'il a passé toute sa vie
à essayer de le dire. Et je crois que, en un sens, l'intuition fondamentale de Hobbes ou celle de Pascal n'est absolument pas l'intuition de Descartes. C'est l'intuition de la vie comme concurrence, de la vie comme effort, de la vie comme, et dans le cas de Pascal, comme malheur, comme vallée de larmes. Il y a une conscience tragique qui est très, très, très forte chez Hobbes, c'est plus une conscience lucide et pessimiste qu'une conscience tragique. Mais il y a cette sorte d'intuition, je devrais dire, au fond, voilà, qui tranche beaucoup avec l'intuition cartésienne. Je crois que l'intuition fondamentale de Descartes, c'est d'une certaine manière une sorte d'accord entre l'homme et le monde, d'une certaine manière.
From spinning around, gravity gets tired of holding everything down. When the fabric of time's unraveling like twine, and all roads lead to Rome, and there are no words left to rhyme. We'll make kites from our bones and make shoes from our skin, and we'll try to pretend.
note très positive pour le coup que nous allons nous quitter, Pierre Guédancien, une note cartésienne qui plus est. Merci beaucoup d'être venu parler de votre livre.
Merci de votre invitation.
C'est un plaisir de vous écouter en parler, et d'ailleurs je signale aux auditeurs, pour ceux qui en voudraient plus que ces 50 minutes, que existe une version sonore en réalité de ce livre aux éditions Frémo, qu'on peut trouver. Donc c'était la série Une histoire personnelle de la philosophie, et une collaboration éditoriale entre la librairie sonore Frémo et les presses universitaires de France. Le livre s'appelle La voix des idées, de Descartes à Hume, et c'est donc aux éditions PUF. Merci et à bientôt, Pierre Guédancien.
Merci.
We'll make kites from our bones and make shoes from our skin, and we'll try to pretend that this world was made for men. Oh, oh, oh. Now nothing's left between us besides blood and air. Every last circle has been turned into a square. There are no cigarettes in the pockets of your vest. No more hellos or goodbyes. No more secrets to confess. We'll make kites from our bones and make shoes from our skin.
Vous écoutez France Culture, il est 10h51. Encore deux minutes, papillon, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie. On oublie parfois que les dialogues des Carmélites de Francis Poulenc ont d'abord été une nouvelle, puis un scénario dont l'écrivain Georges Bernanos devait justement faire les dialogues. Le film tombe à l'eau, heureusement donc il y a eu Poulenc, venu sauver ce texte, le seul de Georges Bernanos qui soit un texte de théâtre. De fait, comme on le constate dans la nouvelle édition de ses œuvres romanesques en Pléiade, les romans de Bernanos sont déjà un ensemble de dialogues et de monologues, tout autant d'échanges qui ne misent pas sur l'avancée d'une narration, d'une action, mais au contraire sur les méandres existentiels qui agitent ses personnages, sur les tourments d'une plongée en soi dans sa foi religieuse pour atteindre le surnaturel. Cette quête de soi à travers la parole, c'est précisément aussi ce qu'a vécu Bernanos. Dans l'excellent appareil critique qui accompagne cette nouvelle édition, chaque texte est situé dans son contexte d'énonciation, comme le veut d'ailleurs une édition critique. Et ce contexte pour l'écrivain, en l'occurrence, c'est celui assez souvent d'une véritable épreuve. En témoigne notamment ce texte inédit, enfin publié, Un mauvais rêve, manuscrit d'un roman policier, maintes fois remanié et en partie refusé, l'écriture de ce roman où l'histoire nous dit-il de déceptions successives, patiemment surmontées jusqu'à un dénouement. Dans ces dialogues des Carmélites, tout tend aussi au dénouement fatal, celui de l'histoire de la condamnation et mise à mort des religieuses. Mais rien n'est montré sous la plume de Bernanos dans toute sa crudité. Tout reste encore tourné vers l'intériorité des personnages, tout se vit dans l'intimité oppressante ou libératrice de chacun, ou entre eux dans leurs échanges. Et là est la force de ce théâtre repris par Poulenc, celui de montrer le combat par la voix et sur le visage que prend chaque conscience. Et je rappelle qu'il s'agit de la réédition des œuvres romanesques complètes de Georges Bernanos, en Pléiade, chez Gallimard. Merci beaucoup Géraldine, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine consacrée à la jalousie. Proust lundi, Shakespeare et les feux de l'envie par René Girard, mardi, Rousseau, mercredi, ainsi que Feydeau, jeudi. La semaine prochaine, la jalousie sera un joli défaut. D'ici là, si vous voulez réécouter cette émission, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement la réécouter, mais également la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, à l'heure qui vous arrange le plus. Rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où l'émission est mise en ligne quotidiennement et où nous attendons vos remarques et commentaires. Mais pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h54. Tout de suite, Christophe Onodibio pour Le Temps des Libraires, suivi à 11h de Culture Monde par Florian Delorme.